Bonsoir à toutes et à tous. Pendant que Béatrice Brault termine d'écrire au tableau, je vais peut-être reprendre quelques éléments de la conférence précédente en vous disant tout de suite qu'il faudra supporter quelques hésitations chez moi parce que l'activité universitaire est très intense. Et donc voilà, c'est à moitié préparé, à moitié en direct. Donc Véronique Robert nous a parlé il y a 15 jours des séances 15 et 16 du séminaire L'Éthique sous le titre La jouissance de la transgression et la pulsion de mort. Alors je vais essayer de repointer pour vous quelques articulations précises dans ces deux chapitres pour retracer le cadre au fond de ce qui a précédé la conférence de ce soir. Donc, Lacan ne fait pas appel à l'œuvre de Sade, nous dit-il, parce qu'elle porterait en son sein quelque chose de commun à la mise en cause des limites, avec quelque chose de commun avec la psychanalyse. Donc, ce n'est pas pour ça qu'il fait appel à l'œuvre de Sade. Mais il fait appel à cette œuvre parce que, nous dit-il, la question éthique est présente d'emblée pour l'analyste. Elle vient avant toute chose et Sade va pouvoir nous éclairer sur ce point-là. Et donc il convient de déplier ce que Lacan pointe comme le paradoxe de la jouissance, à savoir que la résistance de Freud devant le commandement « tu aimeras ton prochain comme toi-même » est selon Lacan une seule et même chose avec la résistance qui peut nous entraver en tant que sujet face à la jouissance. Dans ce contexte, dit-il, il fait une petite digression sur le surmoi apparaît comme le lien de l'agressivité retournée contre soi-même, donc quand elle ne s'adresse pas à l'autre. Qu'en est-il, se demande Lacan, de la jouissance de la transgression à laquelle l'analyste peut être confronté à certains moments? Et qu'est-ce qui fait barrage à cette jouissance? C'est de s'apercevoir, nous dit-il, par le biais de l'image, de l'identification à l'autre, en tant qu'il est notre semblable, des limites à franchir ou non. Mais l'image, nous dit Lacan, est trompeuse. Il y a au-delà de l'image, derrière l'image, se trouve un creux, un vide de structure. Sade, nous dit-il, et c'est en ça qu'il est intéressant, s'avance sur cette limite de la reconnaissance d'autrui, avec toute la valeur d'exploration, je trouvais ça intéressant, toute cette valeur d'exploration qu'il faut donner au terme « reconnaissance ». Alors donc, après avoir discuté cette phrase « tu aimeras ton prochain comme toi-même », il s'interroge en quoi est-ce qu'elle est paradoxale, en quoi est-ce qu'elle porte une agressivité en elle, et il attire notre attention sur le terme « mitepsemus », c'est-à-dire le même nous-mêmes, le plus proche de nous-mêmes, le Nebenmensch de Freud, et qu'au fond... Si on réfléchit à l'agressivité qu'on peut avoir envers soi-même, il ne faut pas souhaiter d'aimer son prochain comme soi-même. Ça porte en soi une dimension de cruauté. Alors, dans la démarche de Sade, il nous dit qu'au fond, Sade apporte l'idée d'une technique orientée vers la jouissance sexuelle en tant qu'elle n'est pas sublimée. Et vous vous souvenez qu'on a beaucoup parlé ces dernières conférences de la question de la sublimation. Enfin, il nous dit également, par rapport à ce vide central que je viens d'évoquer, qu'au fond, au plus on se rapproche, c'est-à-dire au plus on est dans la transgression, au plus on se rapproche de cette direction, dans la direction de ce vide central, au plus on se présente l'accès à la jouissance et au cou et le corps du prochain qui se morcelle. Donc ce qui est remarquable aussi dans l'œuvre de Sade, il nous fait remarquer Lacan, c'est qu'il est question de ce corps qui se morcelle et donc d'objet partiel d'une part, et d'autre part du fait que la personne soumise ne perd en rien de sa beauté malgré tous les mauvais traitements qu'elle peut subir. Le chapitre suivant, il sera question de la pulsion de mort. Et il nous indique, au fond, que cette pulsion de mort n'est pas à confondre en termes de pulsion avec ce qu'on appelle la tendance. La tendance, c'est autre chose. Et donc, il va essayer de définir un petit peu ce qu'il en est de la pulsion. La pulsion, au fond, qui n'est possible qu'à partir du moment... Enfin, elle est possible et contingente à partir du moment où elle participe au phénomène de remémoration. C'est-à-dire que la pulsion a un circuit et elle fait boucle et elle est attenante au fait de pouvoir se remémorer l'expérience. Alors, au fond, la transgression, nous dit-il, a un rapport sensible avec ce dont il s'agit dans notre interrogation éthique, à savoir le sens du désir, nous dit-il. Et enfin, je terminerai sur la pulsion de mort, dont finalement il attire notre attention sur le fait qu'il faut distinguer deux versants de cette pulsion. Le premier, qui est la pulsion de mort elle-même, c'est comme ça en tout cas qu'il la reprendra à la fin de ce séminaire, et d'autre part, ce qui permet un retour à l'équilibre. Et donc cette pulsion qui permet un retour à l'équilibre est un versant de la pulsion de mort, mais à distinguer de la pulsion de mort elle-même. Alors, je vais en rester là pour aujourd'hui. Et nous avons le plaisir d'accueillir Béatrice Brault, qui est psychologue clinicienne à la Maison de la Petite Enfance de Valenciennes. Donc Béatrice Brault travaille avec des enfants à Valenciennes et qui est psychanalyste ici à Mons, qui reçoit donc en privé. Elle va nous parler aujourd'hui de la fonction du bien et du beau des séances 17 à 18 du séminaire L'Éthique. Je te passe la parole, Béatrice.
Donc, nous poursuivons notre lecture de ce grand chapitre. Nous sommes toujours dans le grand chapitre, le paradoxe de la jouissance, comme le rappelait Anne tout à l'heure. Donc, nous en avons déjà eu une petite idée de ce paradoxe après avoir entendu parler les séances précédentes de la mort de Dieu, de l'amour du prochain, de la jouissance de la transgression et de la pulsion de mort. Nous avons vu comment le sujet cherche à éviter ce que Lacan qualifie de la chose, das Ding, et en même temps, paradoxalement, c'est ce qui oriente son désir. L'interdit, c'est en quelque sorte, on pourrait dire, l'index du désir, ce qui indique le chemin du désir. Freud franchira un grand pas lorsqu'il nous montrera qu'il n'y a pas de souverain bien. Lacan le traduira à sa manière en disant que le seul souverain bien qui soit, c'est das Ding, la mère, l'objet de l'inceste, qui est un bien interdit, et qu'il n'y a pas d'autre bien. Tel est le fondement renversé chez Freud de la loi morale. Le problème de la jouissance, en tant qu'elle se présente comme enfouie dans un champ central, avec des caractères d'inaccessibilité, d'obscurité, d'opacité, dans un champ cerné d'une barrière qui en rend l'accès au sujet plus que difficile. C'est ce qu'on va voir ce soir. La jouissance se présente non purement et simplement comme la satisfaction d'un besoin, mais comme la satisfaction d'une pulsion. Dans l'introduction à la psychanalyse, Freud nous dit « Nous devons prendre en considération que les pulsions, ce qu'il appelle aussi les émois pulsionnels sexuels, sont extraordinairement plastiques. Ils peuvent entrer en jeu les uns à la place des autres. L'un peut prendre sur soi l'intensité des autres. Quand la satisfaction des uns est refusée par la réalité, la satisfaction d'un autre peut lui offrir un complet dédommagement, dit-il. Ils se comportent les uns vis-à-vis des autres comme un réseau. Que se passe-t-il chaque fois que sonne pour nous l'heure du désir ? Eh bien, dit Lacan, on n'approche pas et pour les meilleures raisons. Nous allons continuer ce soir de saisir pourquoi. Au début du chapitre 17, nous en sommes donc à la barrière du désir, dit Lacan. C'est pourquoi il nous parlera du bien, parce que le bien, dit-il, a toujours eu à se situer quelque part sur cette barrière du désir. La question du bien est aussi proche que possible de notre action en tant qu'analyste. Tout ce qui s'opère d'échange entre les hommes, dit Lacan, et plus encore, une intervention du type de la nôtre a coutume de se mettre sous le chef et l'autorisation du bien, perspective sublime, voire sublimée. Quel bien poursuivez-vous exactement concernant votre passion ? Interroge Lacan à son auditoire. Nous avons à chaque instant, dit-il, à savoir quel doit être notre rapport effectif avec le désir de bien faire, le désir de guérir. Nous avons à compter avec ce désir comme avec quelque chose qui est de nature à nous fourvoyer. On pourrait même, dit Lacan, désigner notre désir comme un non-désir de guérir. Cette formulation de Lacan n'a pas d'autre sens que de nous mettre en garde contre les voies vulgaires du bien, contre, dira-t-il, la tricherie bénéfique du vouloir le bien du sujet. Lacan dira plus tard, dans un livre qui s'intitule Télévision, à propos de l'éthique propre au discours du psychanalyste, « Il n'est éthique que du bien-dire. » Devoir de bien-dire ou de s'y retrouver dans l'inconscient, dans la structure. Bien-dire ici équivaut à s'y retrouver dans l'inconscient en tant qu'il est structuré comme un langage, c'est-à-dire en tant qu'il est le produit d'une logique du signifiant. L'éthique du bien-dire est celle qui prend acte de l'impossible à dire, comme également ce qui cause son désir. Donc, autant ce qui cause ce désir que l'impossible. Lacan insiste avec sa question : de quoi désirez-vous donc guérir le sujet ? Il en convient malgré tout que ceci est quand même tout de même un peu inhérent à notre pratique, à notre expérience. Nous pourrions vouloir quand même le guérir des illusions qui le retiennent sur la voie de son désir. Mais là encore, interroge-t-il, jusqu'où pouvons-nous aller dans ce sens ? Ces illusions peuvent être respectables. Encore faut-il que le sujet veuille les abandonner. Il peut résister. La limite de la résistance est-elle toujours et simplement individuelle ? Pas nécessairement. Toutes sortes de biens tentateurs s'offrent aussi au sujet, comme l'exemple cité par Lacan de la voix américaine. Quelle imprudence, dit Lacan, il y aurait à ce que nous nous laissions mettre en mesure d'être pour le sujet la promesse de tous ces biens comme accessibles, comme un bon père de famille, pourrions-nous dire. Jacques-Alain Miller, dans son séminaire qui s'intitule « Cause et consentement » de 1988, je fais référence au cours du 23 mars, nous dit en quoi certainement l'analyste ne doit pas occuper cette position du père. Il ne doit pas l'occuper à partir du moment où le sujet dans l'analyse est hystérisé. Sinon, l'analyste sera conduit à proposer des interprétations qui seront nécessairement inadéquates pour des raisons de structure. Freud avait pourtant accepté cette position et que même son œuvre est le résultat du fait que dans l'analyse et son travail théorique, il acceptait la position du père en face de l'hystérique. Aujourd'hui, poursuit Jacques-Alain Miller, nous n'acceptons plus d'occuper la position du père. Mais ça fait peut-être aussi que du côté de l'œuvre, on ne fait pas tout à fait le poids, dit-il, par rapport à Freud. Enfin, les analystes se sont très généralement aperçus qu'ils ne devaient pas occuper cette position, cette place de père, et ils en ont conclu qu'ils devaient occuper la place de la mère. De fait, dit Jacques-Alain Miller, on a vu se multiplier l'idée que le transfert maternel était vraiment la clé de la psychanalyse. Lacan, en situant l'analyste comme objet A, a dit la vérité de cette apparence par rapport à ce que je vous disais à l'instant. De la même façon que Mélanie Klein transcrivait la psychanalyse comme un don du sein au patient. Lacan admettait bien, à certains moments de son enseignement, qu'il faut que l'analyste ait des mamelles. Dans l'analyse, ce que raconte le roman familial du patient, c'est la façon dont le sujet a été séparé de l'objet primordial, la mère. Comment il a été affecté de cette perte? À travers quel traumatisme, quelle souffrance et quel fantasme on a surgi? Quelle jouissance a été récupérée de cette perte, de cette catastrophe, ajoute même Lacan. Il n'y a nullement besoin que l'analyse fasse le père comme interdicteur ou encore qu'il souligne ce qu'on s'imagine être de cette position de père. Le sentiment d'interdiction qu'il y a dans l'expérience analytique, parce qu'il y en a un, ne vient d'aucune déclaration de l'analyste. Il vient de toute autre chose. Il vient de quoi? De l'impératif de parler. C'est-à-dire que la métaphore paternelle, là je vous ai repris un petit schéma que Jacques-Alain Miller, mais alors attendez, parce que il faut que je le retrouve. Je ne l'ai pas mis? Ah si. Attendez, voilà. Je me réfère à ce schéma-ci. Hein. Ce mathème. Donc, je disais que l'interdiction vient de l'impératif de parler. C'est-à-dire que la métaphore paternelle, P sur M barré, P pour le père, M pour la mère. Donc, c'est-à-dire que la métaphore paternelle dans l'analyse n'implique pas du tout que l'analyste occupe une position paternelle. Mais tout au contraire, c'est la loi de l'association libre qui accomplit, qui répète cette séparation de l'objet primordial, c'est-à-dire l'obligation de symboliser la jouissance dans le langage. Voilà, alors ça, on retrouve ça écrit sur la deuxième partie du mathème. J'ai écrit grand A pour l'autre de la langue, l'autre du langage, et J pour la jouissance. À cet égard, dit Jacques-Alain Miller, le père, eh bien, c'est la parole. Et sans doute, le sujet est le fils de la parole. Il est assez surprenant de parler en termes de famille, quand on dit que la parole, c'est le père. On s'y retrouve déjà mieux si on dit que le signifiant du sujet en est la cause. La formule oedipienne, le père interdit la mère, c'est ce qu'on représente sur la partie gauche du mathème, donc la formule oedipienne, le père interdit la mère, peut donc à présent se traduire par c'est la parole qui interdit la jouissance. Donc, grand A sur J. D'ailleurs, je me suis posé la question, peut-être que quelqu'un pourra répondre, pourquoi Jacques-Alain Miller ne barre pas, ne met pas une barre sur dans ce mathème. Parce qu'à un certain moment, plus tard, on trouvera, il met... Enfin bon, là, je l'ai repris tel quel. De moi-même, j'ai failli faire une barre également sur... Enfin bon, c'est un petit détail, mais bon. Alors, le père dans l'analyse est donc... le père mort, c'est-à-dire le père symbolique identifié à la langue. On a déjà plusieurs fois parlé de ça ici. La seule éthique du bien que l'analyse peut soutenir est donc celle du bien-dire, mettant en valeur le rapport du sujet le plus foncier avec l'articulation signifiante. Le sujet, c'est l'effet majeur de l'articulation signifiante. L'homme est le support du langage, dit Lacan. Il suffit de son rapport à un couple de signifiants, deux signifiants dont l'un est conçu pour éclipser, est conçu comme éclipsé par la montée et le retour de l'autre. Lacan nous en donne quelques exemples dans le chapitre 17, lorsqu'il nous parle du yin et du yang, de sinus, cosinus. Enfin, la liste est longue, est illimitée. Le sujet a par rapport au fonctionnement de la chaîne signifiante une place tout à fait solide et presque repérable dans l'histoire. De plus, nous dit Lacan, ce qu'un sujet représente originellement, je dis bien un sujet, je ne dis pas un signifiant, je reprends, ce qu'un sujet représente originellement n'est pas autre chose que ceci qu'il peut oublier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le sujet est littéralement l'élision d'un signifiant, le signifiant sauté dans la chaîne. Donc là, je voulais représenter ce petit mathème, S1, un premier signifiant, qui représente le sujet qui est sur la barre, pour un autre signifiant, la flèche qui renvoie à un signifiant S2. Donc le sujet est littéralement l'élision d'insignifiant, le signifiant sauté dans la chaîne. C'est une façon, une autre façon de dire qu'un signifiant représente un sujet pour un autre signifiant. Formulation que vous avez peut-être plus souvent entendue ici. Telle est la première place, la première personne, l'apparition du sujet qui fait toucher du doigt pourquoi et en quoi la notion de l'inconscient est centrale dans notre expérience. La structure engendrée par la mémoire, dit Lacan, ne doit pas vous masquer dans notre expérience la structure de la mémoire elle-même, en tant qu'elle est faite d'une articulation signifiante. Allomètre, nous ne pouvons absolument pas soutenir ce registre essentiel de la dominance de la remémoration au niveau du fonctionnement du principe du plaisir. Remémoration dont vous parlez Anne tout à l'heure. La conception du principe du plaisir chez Freud est inséparable de celle du principe de réalité. Afin de percevoir cette articulation, Lacan nous invite à relire Freud, notamment Lernthruft, l'esquisse d'une psychologie scientifique qu'on trouve dans la naissance de la psychanalyse, l'au-delà du principe du plaisir qu'on trouve dans les essais et le chapitre 7 de l'interprétation des rêves. Donc je suis allée un petit peu revoir un petit peu ces écrits. Qu'en ressort-il de ces lectures ? Freud essaye de nous montrer que l'expérience élémentaire de la satisfaction donne naissance à une autre satisfaction. Voilà, donc là, j'ai fait quelques schémas un petit peu pour essayer de vous y retrouver. Voilà, vous avez Freud, Lacan, ce tableau en haut à ma droite. Donc, Freud essaye de nous montrer que l'expérience élémentaire de la satisfaction donne naissance à une autre satisfaction. Une satisfaction qu'il appelle hallucinatoire. C'est une satisfaction qui ne dérive pas de l'obtention de l'objet du besoin. Jacques-Alain Miller dira dans son séminaire « Le partenaire symptôme » « Cette satisfaction qui ne dérive pas de l'obtention de l'objet du besoin, c'est ça qui déjà justifie qu'il y ait en cause un appareil psychique. S'il n'y avait que satisfaction et besoin, on se passerait bien de l'appareil psychique et tout ce qui s'ensuit. » Dans sa construction, Freud suppose que l'expérience de la satisfaction du besoin reste inscrite. Ça, cette notion d'inscription, c'est important. Cette inscription interfère dans la satisfaction directe par la fonction de la mémoire sous la forme d'une image, d'une trace mnésique. Ce n'est pas une mémoire qui est un simple dépôt, mais une mémoire active. Cette mémoire active délivrera une satisfaction hallucinatoire. La deuxième fois, dit Freud, le besoin suscite l'hallucination de sa satisfaction et se trouve ainsi reconstituée la première satisfaction. Freud fait de ce schéma élémentaire la définition du désir, à savoir, je le cite, « La réalisation du désir est une réalisation hallucinatoire lié à l'inscription laissée par la première fois. » Cette fonction de la première fois, nous la rencontrons dans l'expérience analytique. Il est saisissant de voir que chez l'être humain, la jouissance est conditionnée, sensible, soumise à la première fois, et elle se répétera toute une partie de la vie du sujet. Un petit exemple clinique pour montrer que tout ça, c'est pas... C'est théorique et conceptuel, mais c'est très parlant au niveau clinique. Voici un exemple donné par une analysante. Un sujet féminin adulte qui, dans le cadre de son travail, est souvent amené à prendre la parole en public. Les jours précédents, elle est saisie d'une angoisse terrible de tomber jusqu'à en faire des rêves d'angoisse où elle chute dans le vide, y compris du divan de chez son analyste. Des souvenirs d'adolescente lui reviendront au sujet de ses chutes. Elle associe ses premières peurs de tomber à son enfance. À 5 ans, son père la serre fortement dans les bras lors d'une traversée en bateau, croyant qu'elle tombe dans l'eau. Elle n'avait pas peur de l'eau, par contre, pas peur de tomber, Par contre, l'état de panique dans lequel elle voit son père l'inquiète. Quelques années plus tard, lors de l'enterrement de sa mère, de la mère de l'analysante, enfant, une scène au cimetière, son père la retiendra lorsqu'elle voudra s'approcher de la tombe au moment de la descente du cercueil. La fillette se souviendra de cette pensée, mais je n'allais pas tomber. Peu après, elle commencera à faire un premier rêve où elle chute dans le vide, dans des escaliers, et scène qui se répétera dans toutes les écoles, qu'elle, voilà, primaire, collège, etc., enfin secondaire. Toute une série de rêves de chute. Très jeune, au fond, l'analysante aura prélevé chez son père ce signifiant « tomber », associé à la peur panique de celui-ci, toujours devant un public, ce qui l'inquiétera. La répétition du réel trauma, tomber, s'est mise en œuvre, suscitant donc l'intranquillité du sujet. Voilà, petit exemple pour montrer comme ça la retrouvaille à chaque fois, je peux dire, de la première fois, de ce qui s'est passé. Alors, reprenons un petit peu le parcours où nous emmène Freud dans son élaboration. Donc, le désir, à partir de l'interprétation des rêves chez Freud, devient le leurre de la satisfaction du besoin. Freud parlera aussi de court-circuit du désir, puisque la satisfaction émerge avant que le sujet obtienne l'objet qui satisfait effectivement le besoin. Une satisfaction antérieure interfère et est obtenue, non par l'absorption de l'objet, mais par l'investissement d'une trace. C'est ce que Freud appelle l'identité de perception. Freud donne l'exemple, pour ceux qui ont eu un enfant ou qui travaillent avec des jeunes enfants, Freud donne l'exemple du nourrisson qui tète en dormant, ou bien encore qui pleure, qui appelle parce qu'il a faim. Il s'arrête de pleurer tout d'un coup et effectue un mouvement de succion. Freud fait l'hypothèse qu'il hallucine probablement le sein ou le biberon, ce qui le satisfait un moment et diffère la satisfaction du besoin. Cette identité de perception pour Freud, c'est la réalisation du désir. Mais le principe de réalité intervient quand même à un moment. Ce principe de réalité va venir arracher le sujet à la satisfaction hallucinatoire, pour lui ouvrir les voies d'une satisfaction effective dans le monde extérieur. Le principe de réalité, c'est donc celui qui inhibe l'autre satisfaction. Pour revenir à l'exemple du nourrisson, il se remet à pleurer, après un certain temps, quand il réalise que ni le biberon ni le sein ne sont réellement là et qu'il a toujours faim. Il va donc pleurer pour rappeler, pour demander et répéter... Voilà, cette expérience à chaque fois. Pour résumer, disons que pour Freud, j'ai dû vous mettre ça quelque part, ben voilà, c'est toujours, enfin dans un des schémas, vous allez vous y retrouver, ce qu'à l'envers, c'est difficile. Pour Freud, l'autre satisfaction, c'est la satisfaction hallucinatoire. Pour Lacan, l'autre satisfaction, c'est la satisfaction de la demande, par opposition à celle du besoin. Là où Freud dit « la réalisation du désir est hallucination », Lacan dit « la réalisation du désir est reconnaissance ». Pour Lacan, la reconnaissance, c'est la satisfaction qui précisément se supporte du langage. Le principe de réalité qui inhibe l'autre satisfaction n'est pas encore l'au-delà du principe du plaisir, mais une autre version du principe du plaisir, la continuation du principe du plaisir par d'autres moyens. Nous pouvons alors parler, dira Lacan, d'un seul principe, plaisir-réalité. Lui, il les regroupera, il n'en fera qu'un. Il dit qu'on peut en parler sous la forme d'une métaphore que Jacques Alain Miller écrira comme ceci, principe de réalité sur principe du plaisir. D'ailleurs, Freud dit que le principe de réalité n'est pas une évacuation du principe du plaisir, mais une sauvegarde de ce dernier. On trouve ça dans les formulations sur les deux principes de la structure psychique. Qu'est-ce donc alors que l'au-delà du principe du plaisir ? On n'a pas encore vraiment parlé jusqu'ici. L'au-delà du principe du plaisir consiste à ramener à zéro l'excitation, dira Freud. Lacan dira, c'est l'ordre symbolique, à savoir le langage. Observez donc le principe du plaisir s'articuler depuis l'Entwurf, donc l'esquisse d'une psychologie scientifique, d'où je vous ai fait partir cette année jusqu'au dernier terme de l'au-delà du principe du plaisir. La fin éclaire le commencement. L'originalité de l'esquisse d'une psychologie scientifique tient à la notion d'effrayage qui commande la répartition des investissements libidinaux de façon à ce qu'un certain niveau ne soit pas dépassé, au-delà duquel l'excitation est insupportable pour le sujet. Le recours au frayage n'a chez Freud rien à faire avec la fonction de l'habitude telle qu'elle est définie dans la pensée d'un apprentissage. Le nerf du principe du plaisir se situe au niveau de la subjectivité. Le frayage n'est point un effet mécanique, il est invoqué comme plaisir de la facilité et il sera repris comme plaisir de la répétition. Le nerf de la pensée freudienne, c'est que la fonction de mémoire, la remémoration, est rivale des satisfactions qu'elle est chargée d'assurer. Elle comporte sa dimension propre, dont la portée va au-delà de cette finalité satisfaisante. Pour continuer à parler de cet au-delà, j'ai repris un tableau que Jacques-Alain Miller a repris dans le séminaire Le partenaire symptôme. Il s'agit du cours numéro 10, où il le rappelait, c'est pas là. Avec le faux jour, je ne vois rien. Voilà. Où j'ai repris un petit peu le parcours de Lacan du séminaire 2 au séminaire 7, pour un petit peu s'y retrouver. Donc Lacan, à l'époque du séminaire 2, le moi dans la théorie de Freud, introduit cette disjonction radicale entre ce qui relève du libidinal conditionné par le principe du plaisir, sous le régime du moi, donc imaginaire, et d'autre part le symbolique obéissant à une loi de répétition. Ici, l'au-delà du principe du plaisir, c'est le signifiant, dit Lacan. Le moment du séminaire 7 consiste au contraire dans la connexion du libidinal et du symbolique. Cette connexion du libidinal et du symbolique dégage la chose, comme opposée au grand autre du langage. La chose est alors dégagée comme hors symbolique et entourée d'une aura inaccessible. C'est la partie de la libido qui n'est pas prise dans les raies du symbolique, du signifiant. La connexion du symbolique et du libidinal oblige à une scission sur chacun des deux termes, c'est-à-dire sur le terme plaisir et sur le terme réalité. Voilà, je l'ai mis juste en dessous. Donc on voit bien la connexion du libidinal et du symbolique va obliger à une scission des deux termes, plaisir et réalité. Plaisir se scinde de jouissance, réalité se scinde d'avec le réel. Cette scission nous montre à la fois ce qui est au-delà du plaisir, à savoir la jouissance, et l'au-delà de la réalité, ce qui est réel. Nous assistons alors, dit Jacques-Alain Miller, à une scission de la libido freudienne entre plaisir et jouissance. Donc il représente cette scission par le schéma de la libido que j'ai inscrit. C'est peut-être un peu... Vous voyez où c'est trop bas ? Non, ça va ? Voilà, donc je vais développer ce point à présent. Donc, on est bien d'accord. Je reprends. C'est important de saisir ça parce que c'est capital pour saisir ce que c'est que l'au-delà du principe du plaisir. La connexion du symbolique et du libidinal. Avant, on avait cette disjonction dans le séminaire 2. Dans le séminaire 7, finalement, il connecte le symbolique et le libidinal. Du coup, cette connexion oblige à faire une scission des deux termes, plaisir et réalité. Plaisir, ce sein de jouissance, hein, c'est l'au-delà du plaisir, c'est la jouissance, et réalité, ce sein de réel, c'est son au-delà. L'au-delà de la réalité devient le réel. Et nous assistons alors à une scission de la libido freudienne entre plaisir et jouissance. Le plaisir, c'est ce qui est véhiculé dans le symbolique, tandis que la jouissance se trouve hors symbolique. Le principe de plaisir est ainsi principe du symbolique, c'est-à-dire que le sujet passe de signifiant en signifiant afin de maintenir au plus bas le niveau de tension du fonctionnement psychique, alors que de l'autre côté, l'au-delà du principe du plaisir, c'est dans cet au-delà que surgit la quantité libidinale que n'arrive pas à maîtriser le principe de plaisir et le symbolique. L'autre, le grand autre, c'est l'incarnation de l'ordre symbolique, le lieu du signifiant. Par le fonctionnement du principe de plaisir, l'autre tend à ramener à zéro le fonctionnement de la vie. C'est donc un autre qui reste mortifié. On a déjà parlé de tout ça les années passées quand on parlait du mot, du meurtre de la chose, tout ce qui a déjà été développé à ce niveau-là. Hein ? Donc, par le fonctionnement du principe du plaisir, l'autre tend à ramener à zéro le fonctionnement de la vie. C'est donc un autre qui reste mortifié et en dehors de lui. Et à l'extérieur, il y a ce qui s'incarne de vie dans la chose. Donc le côté mortifié va se trouver du côté à gauche, hein, du côté du plaisir, du côté du symbolique, principe du plaisir, du grand autre. Et la vie, on la trouve où ? On la trouve du côté vers son jouissance, hors symbolique, au-delà, la chose, d'Asdine. Lacan met en avant, dans le séminaire 7, que les psychanalystes sont loin d'être les premiers à s'être avancés sur cette question de l'homme et de la satisfaction des désirs et de son rapport à l'objet. Alors, il cite plusieurs auteurs, hein, je vais pas tous les développer ici parce que ce serait très long. Marx s'est intéressé au rapport de l'homme avec l'objet de sa production. Sartre s'est penché sur les rapports primordiaux de l'homme avec l'objet de ses besoins. Il en dégagera un rapport fondamental défini à partir de la rareté, comme ce qui fonde la condition de l'homme, comme ce qui le fait homme dans son rapport à ses besoins. Charles Fourier, j'ai un peu développé, je ne sais pas si beaucoup connaissent d'entre vous, philosophe et économiste français du début du XIXe, préconisera une organisation sociale fondée sur de petites unités autonomes, qu'il appellera les phalanstères. Ces phalanstères, coopératives de production et de consommation, dont les membres à la fois y vivent et y travaillent. Ils sont solidaires entre eux. Chaque phalanstère est composé d'hommes et de femmes, si possible de caractères et de passions opposées et complémentaires, où rien ne doit manquer. L'utopie de Fourier nous montre assez bien à quelle distance le progrès social se situe par rapport à un ordre collectif quelconque pensé en fonction de la satisfaction des désirs. Il s'en dégage un effet de bouffonnerie, dit Lacan. Pas loin d'ici, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il suffit d'aller dans l'Aisne, et on trouve, donc c'est pas un phalanstère, mais on l'a appelé un familistère, le fameux familistère de Guise, hein, qui a été construit sur le modèle de Fourier. Bien sûr, ça ne fonctionne plus comme ça, c'est devenu des appartements, mais il y a toujours une fabrique, la fabrique des Feux Gaudin. Cette question de l'homme et de la satisfaction des désirs, Lacan la fera remonter jusqu'à Adam et Ève, comme vous l'avez lu. Dans ce séminaire, il évoque la fable mettant en scène Adam et Ève. J'en cite quelques petits passages. Adam arrache un poil à Ève, à celle qui lui est donnée comme sa conjointe, attendue de toute éternité. Et le lendemain, elle lui revient avec un manteau de vison sur les épaules, plein de poils. Voilà. D'un poil pris, il lui en revient plein. Lacan pointe que dans cette fable, la dimension du signifiant est bien présente grâce au père qui introduit ces indications bienveillantes. Adam, donnez des noms à tout ce qui est autour de vous. Donc, voici Adam, Ève, les poils, le manteau, mais aussi la nudité et tout ce qui s'ensuit de la vie. La nudité émerge donc de la rencontre de l'homme et de la femme. Elle n'est donc pas, comme certains peuvent le penser, un phénomène purement et simplement naturel. Quelque chose se cache là derrière qui est toujours ce sacré phallus, dit Lacan. Dans la Genèse, je suis allée voir la version Genèse, la dimension du signifiant de la nomination est bien mise en avant également. Je cite quelques passages. L'homme et la femme étaient nus sans se faire mutuellement honte. Ce n'est qu'après que la femme se laissa tenter par le désir et goûta au plaisir que lui souffla le serpent, que les yeux d'Adam et Ève, tous deux, s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des pagnes. Là est le ressort de la nature de l'étoffe, nous dit Lacan. Au début, c'est comme signifiant que s'articule quoi que ce soit, fût-ce une chaîne de poils. Bien sûr, il ironise. Le textile est d'abord un texte, dit-il. Il y a l'étoffe, l'invention productrice. L'homme se met à tresser, à tisser quelque chose qui n'est pas dans un rapport d'enveloppement, de cocon par rapport à son corps. Cette étoffe va d'abord circuler dans le monde. Cette étoffe est valeur de temps, ouverte à la mode, à l'ancienneté, à la nouveauté. Cette étoffe est là qu'on en ait besoin ou pas. C'est autour de cette étoffe que s'organise toute une dialectique de rivalité et de partage dans laquelle vont se constituer les besoins. Lacan nous dit, l'histoire de l'humain se produit dans le texte, et dans le texte, nous avons l'étoffe. Il revient une fois de plus sur le geste de Saint-Martin, déjà évoqué par plusieurs ici, hein, qui donne la moitié de son manteau à un pauvre. Ce geste veut dire ceci à l'origine, dit Lacan. L'homme comme tel, pour autant que l'on fait dans cette étoffe des trous par où il passe la tête et les bras, l'homme commence en effet à s'organiser comme vêtu, c'est-à-dire comme ayant des besoins qui ont été satisfaits. Que peut-il bien y avoir derrière d'autres? Qu'est-ce qu'il peut bien continuer à désirer d'autre? Avec cette question, nous dit Lacan, nous voici au carrefour de l'utilitarisme. L'étoffe, dit Lacan, est faite pour que le plus grand nombre de sujets possibles y passent leur tête et le bras, leurs membres. Le maximum d'utilité pour le plus grand nombre. Telle est bien la loi selon laquelle s'organise le problème de la fonction des biens. Et là, on voit bien, on est passé du bien au bien. Il y a ce glissement comme ça au long du chapitre. Les biens fournissent matière à une répartition par rapport à quoi s'articule la dialectique du bien. Dans cette richesse des biens, de quelque pauvreté qu'elle soit corrélative, il y a au départ autre chose que sa valeur d'usage. Il y a, dit Lacan, son utilisation de jouissance. Autrement dit, le bien n'est pas au niveau de l'usage de l'étoffe, mais au niveau de ceci, qu'un sujet peut en disposer, qu'il peut en jouir. Alors le domaine du bien vu sur ce versant donne naissance à quoi? Eh bien au pouvoir. Bien que Lacan soit très critique envers Bentham, à certains moments de son enseignement, il mettra en avant certains points de vue de sa théorie des fictions. Jeremy Bentham était un philosophe anglais empiriste, fin 18e, début 19e. Il est notamment connu pour son invention d'une prison modèle, le panopticon, et pour sa théorie des fictions. Il avait construit une doctrine laïque de la morale qui se distinguait de la morale traditionnelle. Sa doctrine ne visait pas à mettre en œuvre les principes moraux transcendantaux comme le bien, le beau ou la vérité, mais à trouver une règle empirique qui permettrait de répartir les jouissances dans l'harmonie pour éviter les douleurs et accroître les plaisirs. C'est une doctrine, dira Lacan, du rapport du semblable au semblable, conduisant à la tyrannie narcissique. Lacan, bien sûr, ne croyait pas à l'utopie du bonheur proposée par Bentham. Par contre, ce qui retiendra son attention, c'est le mode spécial qu'avait Bentham d'articuler le langage et la pulsion. Ceci n'est pas sans évoquer les problématiques freudiennes du moi et du ça, Bentham considère que notre conduite est gouvernée par des lois et que donc l'être humain est dirigé par des fictions légales qui ne sont construites que de langage. Elles répartissent entre les hommes les plaisirs et les peines, souvent, selon lui, de manière injuste, au profit des plus malins ou des plus puissants, qui profitent des ambiguïtés sémantiques et des obscurités de la langue. Jacques-Alain Miller, dans son cours de 97, Le partenaire symptôme, dira « Cette théorie de Bentham jette toutefois un pont entre l'autre du langage et le réel des corps, leurs douleurs et leurs plaisirs, produisant ainsi un lien possible entre le Freud économique et le Freud sémanticien, soit encore entre le registre du symbole et le registre de la pulsion. » Lacan cherche sur ce point à démarquer l'éthique de la psychanalyse. Pour lui, Bentham vient à point nommé dans la mesure où il considère les faits comme des faits de langage tissés dans la trame, dans le manteau des fictions, qui pourtant ont prise sur le réel du corps, en modifiant les plaisirs et les douleurs qu'ils subissent. Chacun cherchant avant tout à trouver son propre bonheur, à accroître sa satisfaction et à diminuer ses peines. Freud s'est chargé, dit Lacan, page 270, de démasquer que disposer de ses biens, cela ne va pas sans un certain désordre. Disposer de ses biens, c'est avoir le droit d'en priver les autres. Le pouvoir d'en priver les autres, voilà un lien très fort d'où va surgir l'autre comme tel. La privation, on en a déjà parlé ici les années passées, est une fonction instituée comme telle dans le symbolique, en ce sens que rien n'est privé de rien. Ce qui n'empêche que le bien dont on est privé est quand même tout à fait réel. Mais le privateur dans tout cela est imaginaire. C'est le petit A, le semblable. N'est-ce pas vraiment singulier, dira Lacan, page 278, étrange, qu'un être s'avoue jalousé chez l'autre et jusqu'à la haine, jusqu'au besoin de détruire ce qu'il n'est pas capable d'appréhender d'aucune façon. C'est un fait d'expérience dont il faut que vous vous souveniez constamment dans l'analyse, dit-il. Ce qui s'appelle défendre ses biens n'est qu'une seule et même chose que se défendre à soi-même d'en jouir. La dimension du bien dresse une muraille puissante sur la voie de notre désir. C'est même la première à laquelle nous avons à chaque instant et toujours affaire. Comment concevoir de passer au-delà ? Lacan y répond en partie. Une répudiation radicale d'un certain idéal du bien est nécessaire pour arriver à seulement saisir dans quelle voie se développe notre expérience. Le bien, dit Lacan, n'est pas la seule, la vraie, l'unique barrière qui nous sépare du désir. La vraie barrière qui arrête le sujet devant le champ innommable du désir radical, pour autant qu'il est le champ de la destruction absolue, de la destruction au-delà de la putréfaction, c'est à proprement parler le phénomène esthétique, pour autant qu'il est identifiable à l'expérience du beau. Le beau dans son rayonnement éclatant, ce beau dont on dit qu'il est la splendeur du vrai. C'est évidemment, ajoute Lacan, parce que le vrai n'est pas bien joli à voir, que le beau en est la couverture. Quant à la sublimation chez l'artiste et l'intérêt que peut y porter l'analyste, Lacan se démarque à cet égard de la position de Freud. Je vais vous relire quelques passages à ce sujet. Il y a un petit passage par 173, vous avez dû déjà lire les séances précédentes. Freud fait remarquer que l'artiste, après avoir opéré sur le plan de la sublimation, se trouve bénéficiaire de son opération pour autant qu'elle est reconnue par la suite, recueillant précisément sous forme de gloire, honneur, voire argent, les satisfactions fantasmatiques qui étaient au principe de la tendance, laquelle se trouve ainsi se satisfaire par la voie de la sublimation. Tout cela est bel et bon, à seule condition que nous tenions pour déjà établi au dehors qu'il y a une fonction du poète. Puis un autre passage, page 279. Freud a été là, donc il commente toujours Freud hein, quant à sa position à lui, quant à la sublimation chez l'artiste et l'intérêt que peut y porter l'analyste. Freud a été là d'une prudence singulière. La définition qu'il donne de la sublimation en jeu dans la création de l'artiste ne fait que nous montrer le contre-coup, je dirais la revenue, des effets de ce qui se passe au niveau de la sublimation de la pulsion quand le résultat, l'œuvre du créateur de beau, revient dans le champ des biens, à savoir quand ils sont devenus des marchandises. Il faut bien dire que le résumé que nous donne Freud de ce qu'est la carrière de l'artiste est quasiment grotesque. L'artiste, dit-il, donne forme belle au désir interdit pour que chacun, en lui achetant son petit produit d'art, récompense et sanctionne son audace. C'est bien là une façon de court-circuiter le problème, dit Lacan. Nous voici donc renvoyés à tout ce qui, au cours des siècles, a pu se dire de diversement pédant sur le beau. Néanmoins, quelque chose court, qui a été articulé par presque tous, sûrement par les meilleurs, mais aussi bien au niveau de l'expérience la plus commune. Il y a un certain rapport du beau avec le désir. C'est ça ce point-là qui intéresse Lacan. Le bien, nous avons vu qu'on le rencontre entre le symbolique et l'imaginaire, ou autrement dit, entre le sémantique et le pulsionnel, tout en ayant prise sur le réel du corps. Le bien a donc pour fonction que le sujet désire en s'en tenant uniquement au plaisir, sans viser son au-delà, c'est-à-dire la jouissance. Tandis que le beau, Lacan développe qu'on le rencontre entre l'imaginaire et le réel. Lacan dira, le beau à la fois arrête le désir et lui indique dans quel sens se trouve le champ de destruction. Le beau à la fois intimide, interdit le désir et lui permet aussi de continuer sa route par réfraction, par déviation. C'est-à-dire que face au beau, le désir va se dédoubler là où il poursuit sa route. Car le désir n'est pas complètement éteint par l'appréhension de la beauté. Il continue sa course, mais plus qu'ailleurs, dit Lacan, il a le sentiment du leurre, en quelque sorte manifesté par la zone d'éclat et de splendeur où il se laisse entraîner. Le beau a bien pour effet de dédoubler le désir, en ce sens qu'à la fois le désir poursuit sa course métonymique dans le leurre, dans l'imaginaire, et à la fois le sujet perd ses moyens, de par son émoi face au réel, mais sans angoisse, ajoute Lacan. Le beau peut donc avoir pour fonction de parer à l'angoisse. Pourquoi sans angoisse? Car le désir ici pressent avoir affaire au réel sans être face à l'objet. Et ça, c'est très important à saisir. Contrairement à ce qui se passe dans l'angoisse. Hein. Donc, je reprends un petit peu, parce que c'est pas évident à saisir. Hein. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il fallait lire ça plusieurs fois pour saisir tout ça, en tout cas. Donc, le beau a bien pour effet de dédoubler le désir. Il poursuit d'un côté sa course métonymique dans le leurre versant, donc au niveau de l'imaginaire, et à la fois, le sujet perd ses moyens de par son émoi face au réel. Mais sans angoisse. Pourquoi sans angoisse? Car le désir pressent avoir affaire au réel, mais sans être face à l'objet. Donc l'objet n'est pas là présent comme dans l'angoisse. L'image belle, finalement, fonctionne comme une anamorphose, dira Lacan, soit comme le support de cette réalité en tant que caché. Il s'agit toujours dans une œuvre d'art de cerner la chose, c'est-à-dire de tourner autour. Les œuvres d'art imitent les objets qu'elles représentent, mais leur fin n'est justement pas de les représenter. Dans l'œuvre d'art, l'objet est instauré dans un certain rapport avec la chose, qui est fait à la fois pour la cerner, la présentifier, et pour l'absentifier. Là, on retrouve le côté caché, et l'objet n'est pas là. Voilà. Enfin, il est là, mais caché. Il n'est pas là en face... Il ne se retrouve pas là en face, le sujet, comme dans l'angoisse. alors que l'angoisse apparaît quand l'objet se révèle au sujet. Là, l'objet, pour le coup, n'est pas caché, n'est plus voilé. Le beau est donc, dit Lacan, à l'image de l'anamorphose, une merveilleuse illusion, une très belle image, dit-il, de la passion, qui apparaît dans l'au-delà du miroir, tandis que quelque chose d'assez dissous et dégueulasse s'étale autour, qui est caché, voilé. L'image belle donne forme à ce qui est dissous, dégueulasse. L'image belle fait du plaisir avec la jouissance. L'image belle a un effet d'aveuglement. Il se passe quelque chose encore au-delà qui ne peut être regardé et qui est l'instinct de mort, la pulsion destructrice, la passion du Christ, ajoute Lacan. Le beau indique de manière voilée le rapport de l'homme à sa propre mort, à sa castration, à sa perte, au désir de rien. Pour conclure, question que je me suis posée, j'essayais d'y répondre. Finalement, quand il n'y a plus cet effet d'aveuglement, ou quand il n'y a pas cet effet d'aveuglement de l'image belle, jusqu'où cela peut-il conduire certains artistes, photographes, journalistes, enfin, on veut dire certaines personnes dans le monde contemporain dans lequel nous vivons. Cela m'évoquait en écrivant un article que j'avais lu dans Le Monde mi-décembre ou fin décembre 2010 au sujet des photos de mannequins anorexiques où il était question de cette fameuse comédienne et mannequin Isabelle Carreau qui est décédée. Derrière la beauté rayonnante et éclatante de certains sujets féminins, derrière la recherche du photographe de l'image extrême de la beauté féminine, il arrive que le beau ne parvienne plus à être la couverture imaginaire du pas bien joli à voir, caché, comme disait Lacan. Plus rien ne donne forme imaginaire à ce qui est dissous, dégueulasse, non regardable, comme il disait. C'est alors l'instinct de mort, la pulsion destructrice, le réel de la chose qui nous saute aux yeux. Et l'angoisse surgit chez celui qui regarde. Si l'angoisse surgit, nous n'avons plus affaire au beau. Ce n'est plus dans ce cas, donc là j'ai pris volontairement un contre-exemple, hein. Ce n'est plus dans ce cas la beauté du corps féminin qui est montrée, mais son envers, son cadavre, pourrions-nous dire. Nous sommes loin dans ce cas de l'image belle qui fait du plaisir avec la jouissance, lorsque la couverture imaginaire s'envole et laisse à nu le réel de la chose.
Voilà, merci beaucoup. Ce sont deux chapitres extrêmement denses. Mmh.
Tout à fait.
Vraiment très denses. Alors voilà, j'ai pris quelques notes, mais vous pouvez aussi réfléchir à vos questions. Peut-être je vais repartir de ce questionnement sur l'image belle et de ce qu'elle peut opérer comme voilement. Une des questions qui vient, c'est au fond, est-ce qu'on peut dire qu'elle opère encore quoi que ce soit quand un sujet n'est pas inscrit dans le symbolique? Le beau n'a pas une fonction de voile? J'ai presque envie de dire si et seulement si le sujet n'est pas retranché du symbolique. Je poursuivrai sur cette question-là. J'avais aussi noté toute la question du fait que l'art représente et que c'est effectivement pour ça, mais lui est venu après qu'on n'est pas en présence directe de l'objet, qu'il s'agit toujours d'une représentation. Et puis je reviendrai un petit peu un temps plus tôt lorsque tu parlais du bien et que tu disais défendre ses biens, c'est se défendre d'en jouir. Et à nouveau, ça faisait écho pour moi à un tout autre domaine qui est le nôtre, mais enfin, est-ce qu'on peut affirmer ça quand on pense par exemple à ce qui se passe en Libye actuellement? Moi, ça renvoie à un questionnement de cet ordre-là. On n'est plus à nouveau dans ce qui est symbolisable. Mmh. On est sur un autre plan. Voilà, j'en resterai là.
En attendant, peut-être une des questions, je peux recommenter un petit peu ce que tu disais sur la question du beau. Bien sûr que dans... J'ai mis un petit schéma... Ben voilà, ici juste derrière moi. Voilà. Bien sûr, là, j'ai pas mis le symbolique, mais bien sûr que le symbolique, il y est là quand même. C'est parce que j'ai... Pour développer ces deux points, j'ai mis en avant l'imaginaire ici, qu'on retrouve, puisqu'ici on retrouve quoi à chaque fois ? Il y a quand même la question du leurre qui est présente. Hein. À chaque fois dans le bien et le beau, et ça Lacan le reprend à chaque fois, il y a quand même la question du rapport du leurre au sujet quant à la question du bien et du beau. Ce qu'il mettait fort en avant, c'est que pour traiter de la question du bien, il y avait quand même tout ce qu'on a repris, hein, les différents auteurs, j'ai développé, c'est quand même la question du symbolique et de l'imaginaire. J'ai envie de dire, c'est ce nouage-là qui est surtout important, bien qu'on dise que ça a un impact sur le réel des corps. Hein, ça, il le précise bien. Donc la présence, enfin, le réel du corps est quand même là. Hein, voilà. Mais donc ça, j'ai envie de dire. La fonction du réel est minime, elle est présente mais elle est minime dans ce qui se joue autour de la question du bien. Tandis que dans la question du beau, bien sûr, que justement, j'ai envie de dire, quand il n'y a pas du tout le symbolique là-dedans, bon, c'est peut-être le contre-exemple que j'ai repris justement, quelque chose qui, c'est tout le réel comme ça qui prend le dessus, parce que sans doute que le symbolique fout le camp, ou il n'y est pas, ou il n'y est plus, enfin voilà. Mais bien sûr qu'il faut qu'il y ait... Il faut qu'il y ait un minimum de nouage avec le symbolique. J'aurais pu le mettre en plus petit, quoi. Hein, mais bien sûr, là, la dimension du symbolique est implicite. Et là, comme la dimension du rêve du corps était implicite également. Mais dans le contre-exemple que j'ai pris, effectivement, quand le beau, finalement, j'ai envie de dire, vire à l'horreur, on voit bien qu'il n'y a plus cette fonction de mettre en avant le beau. Il n'y a plus le voile imaginaire. Il n'y a plus ce voile. Et ça, c'est important, finalement. C'est important parce que ça permet... à une des premières séances, il y avait ce petit schéma qui avait été repris là, avec la chose, hein, située ici. Et voilà. Ça permet de tourner autour de cerner quand même, de toucher quand même ce qu'il en est quand même de la chose. Mais j'ai envie de dire, c'est pas... Ça ne vient pas prendre toute la place, quoi. Je ne sais pas si j'aurais pu partir.
Oui.
D'abord, je pense à cette dame qui s'appelle Orlan, je crois, c'est ça, qui a décidé de faire de son corps une œuvre d'art et qui passe sur le billard régulièrement, que penser de son image et de son rapport à l'imaginaire en tant que quelque chose de perfectible. Voilà. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ce sujet-là ?
Cette dame ou une autre, c'est vrai, quand on voit parfois, ça pose toujours question, hein, de voir... le phénomène est plus courant chez des chanteurs ou des artistes, parce que bon, ils sont populaires, on en entend parler, mais bon, je pense que le phénomène se généralise un petit peu plus, hein, dans ce qu'on entend dire.
Oui, mais elle en particulier, elle a décidé de faire de son corps une œuvre d'art. Donc oui. Vraiment, un tableau comme un autre, ou un objet en 3D. Enfin, ici,
donc corps réel. Voilà. Donc là, j'ai envie de dire, ça, on est au-delà de l'image. Enfin, je veux dire, là, on touche au corps réel.
Au corps réel.
Enfin, moi, j'ai l'impression, là, c'est vraiment, c'est pas, elle se représente pas. on n'est pas, j'ai envie de dire, on la sculpte. Oui, elle se fait sculpter dans son corps réel. Elle touche à son image, mais au-delà de son image, puisque, je veux dire, la charcute, voilà. Le corps réel est...
Elle a l'air d'en tirer de la satisfaction, de ce charcutage, parce qu'elle elle remet ça régulièrement. Bon, voilà.
Satisfaction, nous aussi, hein, mais...
Oui.
Récente, Orlan, parce que moi j'en suis resté à
à l'interview qu'elle a, elle a été interviewée dans le Nouvel Âme par Miller il y a quelque temps. Mmh. Et effectivement, elle est, on voyait bien qu'elle prête son corps, à ça, bon, généreusement, mais pas de façon complètement dingue. Mmh. Ça reste quand même.
C'est limité.
Oui, c'est limité. Mmh. En tout cas, ça reste réversible. C'est, on n'est pas dans la mutilation. Mmh. Et, ça va moins loin, en tout cas, c'est beaucoup plus. Mmh. Ça va moins loin que certains.
Elle ne se fait pas changer un tas d'organes, quoi. Enfin, moi, je pense que j'avais plus.
Non, elle ne se fait pas changer un tas d'organes. Et c'est beaucoup moins délirant que certains dérivent la chirurgie esthétique. Mais vous avez raison, elle subvertit. Elle sollicite beaucoup le beau. Hein? Elle l'amène vraiment au point. Parce que ce n'est plus une représentation, c'est elle-même. Et elle joue de cet équivoque, en tout cas. Elle joue un peu de notre angoisse.
Mais moi, je crois.
D'ailleurs, qu'on... en parlant, d'ailleurs, on crée un peu pour elle. Hein?
Est-ce que ce n'est pas une. Enfin, en même temps, cette fonction. Quand on reste au niveau du beau, puisque là, on n'est pas dans ce que vous dites, dans un cas de. Ce n'est pas l'horreur qui est mise. Est-ce que cette fonction du beau, je ne connais pas plus que ça ce personnage, mais est-ce que ce n'est pas sa façon à elle de traiter le réel enjeu pour elle? Je ne sais pas ce qu'elle a, moi, je... Voilà, pourquoi elle fait ça. Enfin...
Mais relisez l'interview dans le Nouvel Âne, j'en ai encore un exemplaire, si vous le voulez. Et là, elle parle un peu de tout ça, j'ai plus tous les souvenirs, c'est une bonne idée.
Dire, c'est sa façon à elle singulière de traiter, de tourner autour du réel de la chose. Mais apparemment, elle n'est pas que dans le pur réel quand même. Il y a encore apparemment un minimum cette fonction de l'imaginaire qui est présente.
Non, sur le beau, on ne pourrait pas dire aussi que dans le... s'il n'y a pas une occurrence de la beauté dans son rapport au réel, qui est encore même tout à fait évident pour nous. De cette façon, c'est clair. Le style de Lacan, je pense à ça maintenant. Le style de Lacan est quand même toujours très particulier. Hein, notamment dans les écrits de Lacan, il dit quelque part que, en général, il réécrit, corrige 7, 8, 9 fois. Quand on fait ça, on en arrive à sculpter ses phrases. Enfin, il est. Lacan avait, je ne sais pas où il. Quand il a une idée de ça, il essaye dans son style, à mon avis, vraiment d'atteindre un effet de beau. Ce que vous avez déplié aujourd'hui sur le beau, Lacan, semble-t-il, le déploie dans son style même. Mm-hmm. Mmh. Ce n'est pas. Il ne sait pas faire autrement, dit-il. Il ne sait pas faire autrement qu'écrire comme ça. Mais bon. Il y a un effet de beau, en tout cas, qui est très net. Mmh. Et ce n'est pas un style élégant. Il y a des phrases qui ne sont pas spécialement élégantes, mais qui ont un effet de beauté toujours très, très, très particulier. Enfin, on pourrait...
Oui, et ben, d'ailleurs, une ou deux citations que j'ai citées de lui tout à l'heure, voilà. Je trouve sur ce qu'il dit de...
Ça porte toujours, oui.
Enfin bon, c'est des phrases qui percutent quand même. Quand ce qu'il dit de l'image belle, enfin, est-ce que c'est... Ah oui, le beau, voilà. Et donc, dit Lacan, l'image belle, une merveilleuse illusion, une très belle image de la passion. Une merveilleuse illusion. Enfin, il y a quand même des formulations chez lui.
Puis, ben, déjà ceci, il joue avec le langage, la façon de le faire résonner. La façon de le faire résonner, d'une certaine façon, parfois le détruit parce qu'il joue avec le son et l'équivoque. Et en même temps, il y a une poétique. Il y a vraiment une poétique là-dedans. C'est quoi encore l'expression vous l'avez citée, le textile. Le textile. Le textile est un texte.
Voilà.
Hein bon. Voilà. Ça joue sur
oui,
le.
Oui, tout à fait.
Il y a quelque chose. En même temps, il suffit de le dire. Mm-hmm. Il suffit de le dire et c'est. Mm-hmm. Ça devient absolument incontestable. Alors, tu disais, Anne, qu'il y a un passage aussi dans la fonction du beau. L'introduction est évidemment, en lisant ça tout à l'heure, je disais vraiment qu'on est quelque chose qui, qui touche aussi toujours à ce qui se passe, quel que soit le moment où on est quand on le lit. Quand il parle du rapport entre le discours de la science, hein, et Sade, dans le fond. Hein, la seule différence qu'il y a entre les exorbitantes descriptions de Sade et une telle catastrophe, ça ne s'invente pas, et une telle catastrophe comme celle qui peut être déclenchée par les effets du discours de la science, hein, c'est que dans la motivation de celle-ci, la catastrophe scientifique, ne sera entrée aucun motif de plaisir. Sauf qu'aujourd'hui, on a les deux. Mm-hmm. Hein, on a l'effet de la catastrophe de la science, on sait bien que... Voilà, vous savez ce qui se passe, hein, en Extrême-Orient. Bon. Et pour ce qui est évidemment de la position saadienne, plus près d'ici, on a aussi de quoi réfléchir. Parce qu'on pourrait, j'ai quand même une question là, c'est vrai. Ce qu'il dit sur le discours de la science qui n'oublie rien. Mm-hmm. Quand on lit ce passage-là, vous avez cité dans le beau, le discours de la science n'oublie rien. Et le sujet, c'est justement ce qui fait un trou dans le textile. Si le textile est un texte, forcément, le trou pour la tête, forcément, c'est là que... C'est le trou dans le texte ou dans le textile qui fait la place du sujet. Alors, effectivement, on est... En même temps, ce que dit Lacan, c'est assez... ça aussi, c'est très beau, très poétique, et en même temps, on va pas dire désespéré, mais en ce moment, il dit ça, et ça s'arc-boute au discours de la science qui est absolument, absolument inarrêtable. Hein, le tsunami est un tsunami scientifique. Mmh. C'est frappant. Mmh. C'est qu'il y a là vraiment un affrontement entre la science qui n'oublie rien et le sujet qui ne peut prospérer justement que dans un manque de signifiant. C'est une rencontre et... très poétique, même si c'est évidemment très, très poignant.
Ça fait écho évidemment à une rencontre très concrète que vit l'université actuellement, puisque les architectes ont été intégrés à l'université. Et on voit ce qui peut se passer pour des gens qui sont dans le domaine du beau, bon, du fonctionnel aussi, bien sûr, mais quand même avec une notion de créativité, lorsqu'ils doivent pour la première fois rencontrer le discours de la science. Voilà. Alors ça, c'est, je trouve que ça fait merveilleusement écho à ce que vivent certains de nos collègues actuellement. Ils cherchent comment tisser des ponts et des liens. C'est vraiment un grand questionnement. Ou la subvertir. On peut prendre une de vos questions.
Associer quelques mots. Bon, j'ai beaucoup aimé le passage avec donc le textile qui est un texte. Et alors, avec d'autres choses qui me viennent comme ça spontanément. Hein, bon, excusez-moi pour faire un peu de préparation, mais donc on pourrait dire que bon, voilà, textile évoque tissu prêt à porter sur mesure. C'est comme l'enfant qui, bon, quand il est tout petit, voilà, on lui met n'importe quoi, avec tout ce que ça implique symboliquement. Voilà. C'est-à-dire que, voilà, on l'habille aussi bien avec des vêtements qu'avec des mots, et il doit supporter ce qu'on lui met. Et voilà, c'est simplement voilà ce qui me vient autour de ça.
Sur
mesure et le prêt à porter.
Ce dont on l'enveloppe, quoi, de ce dont il est enveloppé, quoi, à la fois au niveau de.
Et qu'est-ce qui est souhaitable, le sur mesure ou le prêt à porter? Alors là.
Je sais pas si.
Bon, peu.
Je crois pas qu'il y ait de souhaitable. De toute façon, les choses se font. Je veux dire, il n'y a pas de recette. C'est vrai que c'est souvent une question hein, quand on travaille avec des jeunes enfants, les parents comme ça. Qu'est-ce qui est le mieux, vous croyez, qu'il faut faire, qu'il faut dire, pas dire. Bon, c'est très On voit beaucoup de revues comme ça, souvent dans les salles d'attente, comme ça. Voilà, faites ceci pour qu'il n'y arrive pas ceci à votre enfant, dites-lui ceci, faites cela, faites-lui de faire du sport, ou ceci, ou cela. On voit ça, il n'y a pas de règles.
Je rebondis sur ce que vous venez de dire, parce que c'est intéressant, cette opposition sur-mesure prête à porter. On pourrait dire, le sur-mesure, tiens, ça touche au singulier, le prêt à porter, c'est valable pour tous. Or, on voit bien les ravages du côté de l'avoir dans notre société actuelle, qui font plutôt écho à la question du sur-mesure.
Et ben, voilà, je trouve le sur-mesure, il comble aussi, il bouche. Il n'y a pas de manque.
Une autre question ? Non ? Eh bien, alors, on va en rester là. On se revoit le 4 avril avec Cathy Langelet. Merci beaucoup.